Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Washington, Ottawa et Londres affirment que le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi en Iran a été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. 176 personnes étaient à bord, aucune n'a survécu. Des veillées ont eu lieu hier soir un peu partout au Canada, d'où étaient originaires de nombreuses victimes. Nous y revenons dans un instant.
Le Royaume-Uni sur la route du Brexit, l'accord a été validé hier à Londres. Le mandat des eurodéputés britanniques va donc prendre fin, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous évaluerons aussi le coût de la réforme des retraites en France qui s'ajoute au déficit du système. Comment combler les trous? Cette question du financement sera abordée aujourd'hui à Matignon.
Et puis ce soir, Emmanuel Macron s'exprimera lors de la Convention citoyenne sur le climat. Difficile exercice, il faudra contenter les citoyens et les parlementaires.
Les municipales, ce sont des élections locales ou nationales? À 2 mois et demi du scrutin, Stéphane Robert posera la question dans son billet politique dans un gros quart d'heure. La coïncidence était difficile à croire. Le Boeing 737 ukrainien qui s'est écrasé en Iran près de Téhéran mercredi pourrait avoir été abattu par un missile. La thèse est évoquée en tout cas sans détour par l'Américain Donald Trump, le Britannique Boris Johnson et le Canadien Justin Trudeau. Sur les 176 victimes tuées dans ce crash, 63 étaient canadiennes, dont 15 venaient de Toronto. C'est là que se trouve notre envoyé spécial Grégory Phillips. Une veillée y était organisée hier soir. Reportage.
Autour de cette fontaine, ce ne sont pas des dizaines mais des centaines de bougies qui éclairent la nuit et la fine couche de neige tombée sur cette place du centre-ville. Il y a des photos et des prénoms, Madillé, Daria, Arsane et puis aussi des mots laissés en farsi ou en anglais. Toronto est parfois rebaptisé Téhéranto, tant la ville abrite d'Iraniens 100 000 environ, une quinzaine de victimes du crash habitaient ici. Moi j'avais deux proches dans cet avion dit Bash, mais au total je connaissais 8 personnes et malheureusement, 6 minutes après le décollage, elles ont perdu leur vie, leurs rêves, leurs ambitions, seulement une seconde. Comme l'a dit notre Premier ministre, le Canada a le droit de savoir ce qui s'est passé. Kimia est venue déposer un bouquet de fleurs au pied du mémorial improvisé. Ses parents sont en Iran. Le crash de l'appareil et la tension extrême avec les États-Unis l'inquiètent beaucoup. On se demande toujours que va-t-il se passer là-bas, qu'est-ce qui va arriver à nos amis, à ceux qu'on aime. J'y pense jour et nuit. Dans la petite foule encore rassemblée vers 23h, évidemment on évoque ce missile iranien qui a peut-être abattu l'avion. Mais ce jeune homme, qui ne veut pas donner son prénom, dit ceci. Oui, on a vraiment droit à la vérité. Il faut que le gouvernement iranien donne les boîtes noires et peut-être qu'on saura ce qui s'est passé. Mais ça ne changera rien pour ces gens qui ont perdu leur vie. Des veillées comme celles-ci ont eu lieu hier dans tout le pays. Justin Trudeau a participé à l'une d'elles, à Ottawa.
C'était Grégory Phillips depuis Toronto ce matin pour France Culture. À mes côtés dans ce studio maintenant, Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
De la rédaction internationale de France Culture. Marie-Pierre, nous avons entendu les craintes de certains Canadiens sur les causes du crash. Un missile aurait abattu l'avion près de Téhéran en pleine montée de tension entre l'Iran et les États-Unis. Quelles informations avons-nous ce matin?
Eh bien, tout d'abord, ce qui est sûr, c'est que cette catastrophe est survenue dans ce contexte, en effet, de tensions très élevées entre les États-Unis et l'Iran, alors que Téhéran venait de répliquer à l'assassinat du général Soleimani par des tirs sur deux bases abritant des soldats américains en Irak et s'attendait donc à une riposte américaine. Donald Trump l'avait promise, rapide et très dure. Il y avait donc une fébrilité certaine en Iran. C'est ce contexte qui rend crédible l'hypothèse d'un tir de missile solaire. L'armée iranienne était en état d'alerte totale. Le système de défense antiaérien activé selon la presse américaine. Elle cite ce matin notamment le New York Times qui évoque des images satellites montrant des taches de chaleur assez caractéristiques du tir de missiles solaires. Ces images permettraient d'identifier deux missiles tirés 2 minutes après le décollage de l'appareil. Selon le New York Times, les agences de renseignement américains ont également intercepté des communications en Iran qui pourraient confirmer que le système de défense anti-aérien a abattu l'appareil. CNN, CBS et Newsweek citent quant à elles des responsables des services de renseignement américains qui, sous couvert d'anonymat, se disent convaincus que c'est bien un tir de missile qui a abattu l'avion. Des spécialistes rapportent même que la signature radar du Boeing peut être confondue avec celle d'un avion de transport militaire. Il pourrait donc s'agir d'une méprise tragique. L'Iran balaie ce qu'il qualifie de spéculation, voire de mensonge, parle d'une mise en scène et de guerre psychologique. Téhéran fait notamment valoir que d'autres appareils volés au même moment dans la même zone. Téhéran qui a invité des experts internationaux, notamment de Boeing, à participer à l'enquête. Elle s'annonce longue et compliquée. Il s'agit donc de rester très prudent à ce stade.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véro pour ces précisions ce matin. Et je rajoute que le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, affirme à l'instant que la France est prête à apporter son expertise dans cette enquête après le crash d'avion en Iran mercredi qui a fait, je le rappelle aussi, 176 victimes. Le maréchal Haftar en Libye veut coûte que coûte marcher sur Tripoli. Il rejette l'appel au cessez-le-feu lancé par Ankara et Moscou ces derniers jours, poursuivant ainsi ses opérations militaires contre les forces loyales au gouvernement d'Union nationale. Les combats en Libye durent depuis 8 mois maintenant. Et le ballet diplomatique s'était accéléré ces derniers jours. C'est dû, Maureen Mercier, à l'annonce par la Turquie de l'envoi de troupes en Libye.
Oui, parce que cette annonce fait craindre que la Libye ne se transforme en nouvelle Syrie. L'internationalisation du conflit n'est pas nouvelle, mais elle s'est accélérée ces dernières semaines. Pour éviter l'escalade, Turquie et Russie, qui soutiennent pourtant des camps opposés sur sol libyen, appellent à un cessez-le-feu. L'ONU appuie l'initiative, le gouvernement de Tripoli aussi, mais l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar, lui, refuse. Parmi les pays qui s'activent pour trouver une sortie à la crise, les pays frontaliers, Algérie et Tunisie en tête. Le risque d'escalade menace de déstabiliser l'ensemble de la région. Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, qui était à Tunis hier. Tunis qui a accueilli dans la foulée le ministre des Affaires étrangères saoudien, toujours sur le dossier libyen. Avant la Tunisie, Jean-Yves Le Drian s'est réuni avec ses homologues italiens, égyptiens, chypriotes et grecs au Caire. Pour l'heure, toutes ces initiatives ne débouchent sur rien de concret. Au contraire, elles montrent combien la communauté internationale est divisée. Pendant ce temps, sur le terrain, le maréchal Haftar progresse. La communauté internationale pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures, mais elle ne le souhaite pas. Voilà le sentiment d'un habitant de la capitale dont la ligne de front se rapproche dangereusement de sa maison.
Merci Maureen Mercier dans la région pour France Culture. Alors certains craignent qu'avec l'arrivée des troupes étrangères, la Libye ne devienne une nouvelle Syrie. La Syrie où après 8 ans de conflit, là, une aide humanitaire transfrontalière pourrait prendre fin aujourd'hui, faute de consensus à l'ONU. La Russie a mis son veto au Conseil de sécurité de l'ONU et cela pourrait concerner plus de 250 000 personnes qui ont fui leurs habitations pour rejoindre la frontière turque et qui pourraient donc se retrouver sans aide humanitaire. Après plus de 40 ans de vie commune, le divorce sera bel et bien prononcé entre les Britanniques et l'Union européenne. L'accord est validé par les députés outre-Manche. Ils auront mis 3 ans et demi à trouver un consensus. Le Brexit est officiellement sur les rails pour une sortie programmée maintenant au 31 janvier prochain. Les 73 eurodéputés du Royaume-Uni s'apprêtent, eux, à vivre leur dernière session parlementaire à Strasbourg. Et c'est un déchirement pour Caroline Vaudonne. Elle est élue centriste et Angélique Bouin l'a rencontrée.
Attablée au bar des parlementaires où elle a discuté de nombreux textes, Caroline Vaudon dit redouter le retour au pays après un job qu'elle a adoré.
C'est très triste et je suis toujours en colère avec mon pays pour avoir fait une décision si mauvaise.
L'élu de 51 ans, dont c'est le premier mandat, craint que son pays, à peine remis de 2008, ne replonge dans une crise économique. Quant au futur accord commercial avec les États-Unis, nous ne sommes plus un empire, souligne l'élu.
On verra comment ça va se passer, mais je crois que les États-Unis n'ont vraiment pas besoin d'une union plus proche avec le petit Grande-Bretagne.
Pour elle, c'est également une erreur historique d'un point de vue diplomatique.
Dans ce monde qui est tellement fragile en ce moment, je trouve ça assez effrayant. Par exemple, ce qui se passe maintenant entre les États-Unis et l'Iran, penser qu'on va s'arracher de cette union de voisins me semble bizarre, dangereux, stupide. J'arrive pas à comprendre.
Alors comment voit-elle l'avenir ? Votre pays frappera-t-il un jour à nouveau à la porte de l'Union ? La réponse fuse.
Absolument. Et j'espère que la porte sera ouverte pour nous.
Caroline Woden esquisse un sourire. N'oublions jamais, conclut-elle, que pendant la campagne du Brexit, les Britanniques ont été trompés.
Et en attendant un éventuel retour dans l'Union, la sortie du Royaume-Uni a déjà ses contours. Il ne sera notamment plus question d'autoriser automatiquement le regroupement familial pour les immigrés.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. De nouvelles réunions sur la réforme des retraites sont prévues ce vendredi.
Il s'agira cette fois de définir le cadre des discussions sur le financement du futur système de retraite. Les rendez-vous vont s'échelonner tout au long de la journée à Matignon entre le Premier ministre Édouard Philippe et les partenaires sociaux. Hier soir, le gouvernement a présenté succinctement son projet de loi. L'âge d'équilibre à 75 ans est bel et bien inscrit dans le texte. Il entrera en vigueur en 2022, est-il précisé, sauf si les syndicats trouvent une autre solution d'ici septembre 2021. L'État s'engage également dans le texte à revaloriser enseignants et chercheurs. Cela fait quelques concessions de plus qui auront un coût, Anne-Laure Jumet.
Il faut trouver 10 milliards d'euros à l'horizon 2025 pour équilibrer le régime. Voilà l'hypothèse désormais retenue par le gouvernement sur la base des estimations faites par le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Mais équilibrer le régime, ce n'est pas tout. La réforme en tant que telle produit de nouvelles dépenses et il faudra bien les financer. La revalorisation des salaires des enseignants, 400 à 500 millions d'euros par an, et ce, dès le prochain budget en septembre 2020. Et puis, le gouvernement a fait des concessions. D'abord, il a décidé de décaler l'application de la réforme à la génération 75 au lieu de la génération 63. Des concessions aussi faites aux cheminots, policiers, pilotes ou encore danseurs de l'opéra. Par ailleurs, la pension minimum pourrait être revalorisée au-delà des 1000 euros prévus, la pénibilité mieux prise en compte. Tout cela a un coût. Alors la réponse de l'exécutif depuis le début pour financer ce nouveau système par points, c'est de travailler plus longtemps. Le fameux âge pivot rejeté par les syndicats réformistes comme la CFDT, il figure dans l'avant-projet de loi, mais tout l'enjeu aujourd'hui pour la centrale de Laurent Berger, c'est de le retirer du texte.
La CFDT qui appelle, tout comme l'intersyndicale menée par la CGT et Force ouvrière, à des rassemblements demain samedi, puis des actions mardi, mercredi et jeudi prochain. Hier, les cortèges ont rassemblé 452 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Près d'1,7 million, répond la CGT. À Paris, 27 personnes ont été placées en garde à vue hier soir à la fin de la manifestation, après des affrontements avec les forces de l'ordre. J'ajoute qu'aujourd'hui, et comme depuis début décembre, le trafic ferroviaire reste perturbé à la SNCF et à la RATP en Ile-de-France. Tout projet de loi devrait être compatible avec les exigences écologiques du pays. Voilà en substance ce que rappellent ce matin les parlementaires de tous bords. Ils ont envoyé une lettre au Premier ministre Édouard Philippe et à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, pour demander une évaluation climatique des lois. Un appel à la vigilance, le jour où Emmanuel Macron doit justement s'exprimer sur sa politique écologique. Il sera ce soir, et pour la première fois, devant 150 Français choisis pour participer à la Convention citoyenne sur le climat. Emmanuel Macron qui vantait encore, lors de ses vœux du 31 décembre dernier, un nouveau modèle écologique. Écoutez.
Il nous reviendra, au printemps prochain, d'affirmer des choix nouveaux et forts. Une stratégie sur plusieurs années pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour œuvrer en faveur de la biodiversité.
Voilà pour les projets ambitieux qu'il a, entre autres, confiés aux 150 citoyens tirés au sort lors de la convention. Quel rôle auront-ils face aux députés? Comment se répartir la tâche? L'articulation entre démocratie participative et démocratie représentative est assez délicate, Anne Fauquemberg.
En avril dernier, le chef de l'État s'était engagé à ce que les propositions des citoyens soient soumises sans filtre, au Parlement notamment. Et cette absence de filtre, les citoyens y sont très attachés, comme l'explique Sylvain Burquier, participant de la Convention citoyenne.
On a une sorte d'indépendance, parce que c'est une expérience qui est toute nouvelle, donc on apprend en marchant. Le président a dit qu'il attendait beaucoup de cette convention, donc on imagine que ce ne sera pas amoindri à la sortie, mais bien pris en compte, porté, poussé, voire soumis à un référendum pour intégrer toute la société française.
Côté parlementaire, Jean-Charles Colaroy, en charge de l'écologie à l'Assemblée nationale pour le groupe LREM, se sent
challengé par cette nouvelle initiative, l'envie de prendre les bonnes idées.
Même si
je suis un petit peu méfiant sur le sujet du référendum, parce que par expérience, très souvent, une grande partie des concitoyens ne répondent pas exactement à la question posée dans le cadre d'un référendum, mais exprime aussi un sentiment vis-à-vis des responsables ou des politiques en place.
Cette question et beaucoup d'autres ont également occupé la commission des lois mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Un constitutionnaliste et un professeur de droit public invités pour mieux esquisser les contours de cette démocratie qu'il faudrait désormais appeler continue, avec donc des sas délibératifs pour que les citoyens puissent être entendus entre les élections. Un débat passionnant mais qui a mis au jour trois risques. Le danger d'opposer le peuple aux élus, celui d'une contrainte trop forte sur le législateur ou encore un détournement de ces instances citoyennes par l'exécutif, ce qui renforcerait l'emprise du chef de l'État sur le Parlement.
Emmanuel Macron qui s'exprimera donc à 18h30 ce soir. Comme tous les vendredis à présent, focus sur le grand reportage diffusé ce soir sur France Culture. Il sera consacré aujourd'hui à la nouvelle fusée Ariane 6, dont le premier lancement est prévu au deuxième semestre de cette année. Une fusée certes plus compétitive, 40% moins chère qu'Ariane 5, mais elle ne sera toujours pas réutilisable, contrairement à ses concurrentes, comme la Falcon de l'américain Elon Musk. Un choix stratégique qu'assume au micro d'Hakim Kasmi Jean-Marc Astorgue, le directeur de lanceurs au SNES.
Vous avez raison de souligner qu'il y a un lanceur qui est partiellement réutilisable aux États-Unis, qu'Ariane 6 ne l'est pas. Nous avons fait ce choix délibéré pour arriver rapidement sur le marché, puisque Ariane 6 a été décidé en 2014, arrivera sur le marché en 2020. En 6 ans, il n'était pas possible de développer un lanceur réutilisable. On sait que l'effort nécessaire pour rendre un lanceur réutilisable est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui nécessite beaucoup de budget. C'est quelque chose que l'on prévoit plutôt pour l'après Ariane 6 et Ariane 6 arrivera rapidement sur le marché avec des baisses de coûts qui sont substantielles et on avait besoin de remplacer Ariane 5 par un nouveau produit très rapidement. Et pour ce qui concerne l'après Ariane 6, bien entendu, on va travailler sur ces solutions-là pour les appliquer sur les nouvelles générations de lanceurs. Moi, je dirais qu'il me semble évident que la réutilisation, c'est le futur des lanceurs et c'est une façon de réduire les prix. Et ça, on y croit depuis toujours.
Ariane 6 et l'Europe spatiale qui contre-attaque. C'est le grand reportage de France Culture réalisé par Hakim Kasmi et Annie Brault. Il sera diffusé à partir de 17h ce soir et sera suivi d'un débat présenté par Sophie Delpont. Le temps de ce vendredi avec un ciel encore bien chargé. Des averses du sud-ouest jusqu'aux régions de l'est. Ailleurs, quelques éclaircies devraient se faire une place. Il fait 7 degrés ce matin à Rennes et Lyon, 8 à Strasbourg et Paris, 12 degrés à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h17 sur France Culture. Dans quelques instants, on va évoquer à nouveau les incendies qui sont en train de ravager l'Australie. Nous serons en compagnie d'un géographe, Fabrice Argounès, et nous entendrons une philosophe, Joël Zask, qui a notamment publié un ouvrage « Quand la forêt brûle », c'est aux éditions Premier Parallèle. Dans 30 minutes, vous retrouverez mes camarades avec Hervé Gardette, qui consacrera sa transition aux incendies en Australie et plus précisément au sort des animaux, des koalas. Mathilde Serrel, elle, évoquera les prophéties et puis Aurélien Bélanger, lui, consacrera sa conclusion aux intégrales. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Un billet politique avec vous consacré aux municipales.
Oui, qui sont des élections à la fois locales et nationales.
Dans quelques instants.